monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 30 mars 2016. C'est l'émission numéro 94. Christophe Rollin au micro. Gérald est ici. Isa également. Voilà, c'est notre nouvelle habitude. Et nous avons un invité. Ce n'est pas comme il y a deux semaines. Oui, voilà, on a fait une petite pause le mercredi 23 mars. Et donc, le mercredi 16 mars, nous recevions par téléphone Martin Barnier. Et là, nous recevons en chair et en os Agnès Auger pour nous parler un petit peu de ça, peut-être de chair, d'os, pour nous parler de voix, voix V-O-I-X, puisque Agnès Auger se trouve être, oui, c'est le terme que j'ai employé sur le blog, vox thérapeute. Mon Dieu, mais de quoi est-il question? Eh bien, toute l'émission, nous allons pouvoir en deviser, en parler, et comme ça, comme cela, vous sortirez à 15h, expert en la matière. Il est 14h et quelques minutes, bientôt 5 minutes, voilà, on commence un peu en retard, ce n'est pas très grave, et nous allons écouter un peu de musique. C'est Gérald qui l'a programmé. Stripsody, je ne sais pas du tout ce que c'est, nous allons découvrir, ça va être très intéressant. Ça fera sûrement lieu à la matière une première question. Et puis voilà, vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous le faites aussi sur internet, c'est le radiocanu.org. Et c'est tout, jusqu'à 15h, comme tous les mercredis.
Boom, 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 boom. You stupid kite, come down out of that tree. Kite, kite, kite. Chuff, chuff, chuff. Clam, clam, clack, 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 clack. Chomp, chomp. Crunch, crunk, crack, crackle. Up, barf, gosh. Delaying. Ding, 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 ding. Like girls with naturally curly hair?
Good grief! Pum!
Puff!
Poo-poo-roo, poo-poo-roo!
Puff! Pshht! Puff, puff, puff!
Ticket to ride.
The weather tomorrow will be mostly cloudy. Some. Knock, knock. Oh, smack.
Grunt, sniff, glab, zbroom, crumb, hiss.
Rumble.
Zbam, zbrank, shrank at the shrap, slap, gallop. Honk, honk, honk. Slam, snap, smash, splat, snap,
snort,
splash, split, splat, sprung, spike, stomp, 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 ugh, thud, stomp, 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 stomp. Swash, sweet, tuck. Tweet, tweet, tweet. Dum, 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 dum. It's a bird. No. It's a plane. No. It's Superman. zing, zoom, zowie. Bang.
Bien, Gérald, quel succès pour Cathy Berberian, c'est la fin de son album, c'est ça?
Bonjour Christophe.
Tu as tout à fait raison, à chaque fois c'est comme
bonjour,
ça, je lance une question.
Bonjour Agnès. Merci chers auditeurs et auditrices d'être encore à l'écoute une fois de plus pour la 94e. Donc j'ai choisi ce morceau, pourquoi? Ben ça coule de source, hein. Ça fait longtemps que j'avais envie de recevoir un invité dans le cadre de Spectaculaire autour de la voix, puisque la radio c'est la voix.
Ah ben essentiellement.
On a invité tellement de comédiens, de metteurs en scène, de chanteurs, de compositeurs, etc., que j'ai trouvé ça judicieux de faire une thématique spéciale sur la voix grâce à une spécialiste ici présente. Et j'ai choisi Cathy Berberian. En deux mots, Cathy Berberian, donc c'est le 20e siècle, c'est une des plus grandes cantatrices du 20e siècle, une sorte de Maria Callas, mais elle plus tournée vers la modernité, vers les expériences contemporaines, vers le pop art, vers des collaborations diverses et variées avec John Cage. On lui a écrit des opéras spécialement, comme Stravinsky, John Cage.
Moi, je la connais surtout comme
La femme de Berio pendant 15 ans.
Ben voilà, Luciano Berio, c'est
ça. Et qu'on vient d'écouter, donc ça s'appelle Stripsody, c'était un mélange de comic strip, ces petites histoires en 4 de gag, en 4 images. Et Sody, c'est un mot valise, hein, strip, comic strip, et Sody, Rhapsody, une forme assez libre. Elle est d'origine arménienne, elle a appris la musique, la musique traditionnelle arménienne et américaine. Et en 66, elle écrit elle-même c'est une idée. D'une partition non plus annotée de manière classique, mais la partition se présente sous une forme de bande dessinée, de dessin en fait, d'onomatopée, de dessin. C'est une partition dessinée, graphique, très intéressante, dessinée par Bruno Zamarin. Et donc elle est donnée en public à ce moment-là, elle l'interprète, elle l'a interprétée plusieurs fois, elle a récidivé avec Umberto Eco plus tard. Voilà, c'est sa première création personnelle, donc elle était connue pour sa tessiture très singulière qui lui permettait, selon la légende, d'avoir 3,5 octaves. Voilà.
Tu as évoqué à l'instant Umberto Eco, décédé en février 2016. Elle, c'est en 1983, je vois, c'est ça.
Oui.
Et née en 1928.
Donc une grande carrière, une immense. Il y a un site officiel que j'ai un peu consulté en anglais. Et bon, ouais. C'est une immense cantatrice, chanteuse du XXe siècle.
C'est une grande
découvrir.
C'est une grande voix. Et donc, pour en parler, nous avons avec nous Gérald. Je t'en prie. C'était ton idée, ton initiative. Pourrais-tu présenter ou pourrais-tu...
Donc Agnès Auger, donc vox thérapeute à la fois, bon, phoniatre. On pourra jouer sur les mots, je sais pas.
Non, phoniatre, il faut être médecin pour cela.
Ah, on va rentrer dans la complexité, donc thérapeute aussi, hein. Psychothérapeute,
oui, c'est ça.
Spécialisé dans la voix, on va dire, dans les pathologies de la voix ou dans le...
Oui, dans ce que la voix peut avoir comme multidimension, et psychologique, et organique, et autre, et plus si affinité. Voilà, donc à partir de ma pratique d'orthophoniste au départ... j'ai pu constater qu'il y avait énormément de correspondances entre la personnalité, les troubles psychologiques et la voix, quand il y en avait. Et j'ai eu envie d'explorer les deux domaines, orthophonie et psychologie, pour les faire se rejoindre quelque part. Et la voix est bien au milieu des deux, et permet de répondre et trouver des réponses des deux côtés. Donc c'est ce que j'ai un peu expliqué dans ce que j'ai écrit il y a maintenant quelques années.
Oui, en 2011, donc vous êtes l'auteur d'un on pourrait dire un classique, Mieux vivre avec sa voix, édition Odile Jacob, qui a été très diffusée.
C'est une version assez large et globale pour que ce soit accessible au public, parce que c'est très peu connu, les troubles de voix. Il faut avoir vécu des difficultés avec sa voix pour s'y intéresser, sinon c'est très peu connu en dehors des troubles à proprement parler. Et donc,
des traumatismes liés à des AVC ou des choses comme ça.
Aussi, encore que...
L'orthophonie.
Oui, donc au départ, ma pratique d'orthophoniste m'a conduit à m'interroger sur ce qu'on pouvait améliorer au niveau organique, au niveau acoustique. Mais j'ai été confrontée à autre chose que ça dans ma pratique, ce qui fait que j'ai ouvert mon exercice à la psychologie, donc je suis psychothérapeute comportementaliste cognitiviste avec un DU qui a été proposé par le docteur Cottreau à l'époque et qui m'a permis de m'intéresser aux personnalités et d'entrer dans les détails parce que aussi dans la voix il y a beaucoup de choses de la personnalité qui entrent en jeu. Et de développer tout ça et d'essayer d'en faire quelque chose pour comprendre comment on pouvait corréler les troubles de psychologie, les troubles psychologiques et les troubles de voix.
Dans une optique thérapeutique pour soigner les gens,
voilà.
Pour les aider à mieux vivre.
Voilà.
Alors, d'où le titre de votre livre.
Voilà, ça Gérald, ce sera la matière principale de l'émission, mais pour commencer, respectons tout de même le cahier des charges de l'émission, à savoir, un petit portrait de l'invité. L'émission s'appelle certes spectaculaire, là il ne va pas être vraiment question de spectacle, ou disons, on en parlait tout à l'heure Gérald, si en fait c'est...
La voix est spectaculaire, voilà, on a bien écouté avec...
La voix est spectacle, donc...
Il y a des voix spectaculaires.
Eh bien très bien, voilà, pour peut-être seulement cette petite note, on va quand même parler non pas tant de spectacle qu'au moins d'artistes. J'ai extrait cela de la page 48, il y a des voix qui ont du caractère, comme la voix de certains artistes célèbres, je pense à Jeanne Moreau, Marc Lavoine, Fanny Ardant, ou des hommes politiques comme Jacques Chirac ou Frédéric Mitterrand. Voilà, ça c'était pour la partie name-dropping, la partie people. Nous allons revenir avec vous, Agnès Auger, et même peut-être plus particulièrement avec le docteur Cottreau que vous avez évoqué. Double question que je vous lance, pourriez-vous en dire peut-être un peu plus sur ce docteur Cottreau, et même pourriez-vous aussi en dire un peu plus sur vous? Quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui vous a conduit à rencontrer cette rencontre avec ce docteur Cottreau? Et puis, qu'avez-vous fait par la suite? En gros, c'est Gérald, on ne va pas prononcer une autre expression que nous avons bannie de l'émission, mais qu'est-ce qui vous a amené à la voix? Et puis, parce que tout cela s'est fait à Lyon. Là, au moins, vous respectez bien cette grande volonté, enfin, du moins, cette grande idée que nous avons à spectaculaire, à savoir présenter des figures locales, des figures lyonnaises. Je vous en prie. Voilà, c'était une longue question. Pourriez-vous retracer ces différentes choses?
Bien avant le docteur Cottreau, c'est le docteur Cornu, si je peux me permettre de le citer, qui est à l'origine de ma spécialité, puisque j'étais dans son service à l'époque où j'étais stagiaire orthophoniste. Et donc j'ai été dans un milieu de la phoniatrie où, en tant que stagiaire orthophoniste, on voit des personnalités du monde médical qui sont extrêmement brillantes. Donc le docteur Cornu est un grand spécialiste à Lyon de la voix. Il est aujourd'hui à l'origine d'une très belle chorale qui continue à exister, qui est l'ensemble vocal de Lyon. Voilà, j'ai pu participer à des chœurs de foule dans cette chorale qui c'était absolument magnifique. Donc j'étais au départ assez ouverte à tout ce que je pouvais apprendre sur la voix.
Avant ce départ, pourquoi cet intérêt, ce goût, cette volonté de s'intéresser à la voix? Oui, Gérald, on ne va pas remonter à la petite enfance, bien entendu, mais quand même, qu'est-ce qui s'est déclenché?
J'ai bien dit que j'étais comportementaliste et pas psychanalyste.
Non,
mais... je ne suis pas pro-analyste, mais quand même, c'est intéressant ce que vous me demandez, mais c'est un peu hors sujet.
Ouais. Donc, petite chose pour l'amorce. Voilà,
simplement, vous savez, on a des spécialités dans l'orthophonie. J'ai eu la chance de m'intéresser à la voix parce que je savais à l'époque qu'il y avait des personnes brillantes au pavillon U qui permettaient d'approfondir les troubles de voix, leur pathologie, la rééducation, chose qu'on faisait peu en théorie. Et j'ai trouvé que sans passer par ce stage-là, j'aurais peu de connaissances. Donc j'ai absolument voulu le faire parce qu'il était assez coté entre guillemets à l'époque. Et je ne l'ai pas regretté puisque je m'y suis intéressée de très près avec des personnalités du monde de l'orthophonie et de la phoniatrie qui m'ont vraiment ouvert sur cette dimension que je ne connaissais pas du tout. Et par la suite, j'ai pu faire des rééducations en tant que spécialiste de la voix, parce que si vous ne faites pas de stage et si vous ne vous spécialisez pas, quand vous sortez de l'école, vous ne connaissez rien à la voix, si ce n'est des choses qui sont un petit peu trop légères pour pouvoir pratiquer. Voilà, au-delà de ça, et quand on commence à pratiquer, on tâtonne. Et puis, j'avais plein d'outils, mais pas assez en tout cas, et qui étaient insuffisants. Mais des personnes qui sont venues me voir ont commencé à beaucoup s'épancher et me parler d'elles-mêmes plus que de leur voix. Ça m'a beaucoup interrogée et je me suis dit, je ne peux pas me suffire des outils techniques pour les aider et leur répondre selon leurs demandes. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être acceptée dans le DU de thérapie cognitive et comportementale, qui était au départ organisé par et dirigé par le docteur Cottreau. Et du coup, j'ai pu développer au-delà des troubles de voix, les troubles de personnalité, les troubles de comportement et la thérapie cognitive et comportementale dans son ensemble pour des tas d'autres choses que des troubles de voix. Et ça m'a permis d'approfondir le sujet et de creuser la question en termes de personnalité et de comportement et de faire des liens avec les troubles de voix. Et c'est le sujet que j'ai présenté pour la fin de mes études de ce DU, où j'ai montré que le modèle comportemental et cognitif pouvait tout à fait s'appliquer aux troubles de voix.
Vous avez reconnecté des choses qui l'étaient, mais qui avaient été bizarrement séparées. C'est un peu le problème de la médecine actuelle, où on porte des parties de son corps qui dysfonctionnent, et chaque fois, on ne fait pas le lien, et on ne considère jamais la personne comme un tout.
Voilà, c'est
et
ça.
Tous les liens qui se tissent dans le corps, l'individu...
C'est ça, c'est-à-dire que j'ai voulu prendre en charge la personne dans sa globalité, plutôt que sur un des seuls aspects qu'elle amenait, et qui était en fragilité. Voilà, et ce qui a permis de développer la question, de découvrir des choses et d'approfondir en donnant des réponses qui ont aidé mes patients.
À mieux vivre.
À mieux vivre avec leur voix.
Alors à changer leur voix, pour mieux vivre.
Alors changer, voilà. c'est un grand mot.
C'est compliqué de pouvoir changer de voix.
C'est compliqué et puis de toute façon il y a une base qu'on a naturellement, on peut changer des paramètres mais
oui, tenter
plus c'est une carte d'identité, ouais. Vous pouvez pas changer de carte d'identité vocale, votre
on
voix restera...
On peut venir Farinelli à un certain âge, à une certaine époque.
Oui,
il faut pas rater le passage.
Il y a des âges,
des dates limites.
Il y a des âges propices, ouais, effectivement.
Mais comment vous faites pour travailler concrètement sur la voix avec quelqu'un, enfin, de manière assez voilà, technique? Comment est-ce que vous faites pour travailler?
Alors tout d'abord,
vous pourriez lui dire.
Tout d'abord, moi, j'écoute le patient qui vient me voir. J'écoute les paramètres de sa voix, j'écoute sa demande, j'écoute sa plainte. Et puis on essaye de définir une couleur, une hauteur, et de voir ce qui lui va, ce qui lui va pas, et ce qu'il a envie de corriger. Il y a des choses peut-être qui, à mon sens, pourraient être améliorées, mais ce qui compte, c'est ce que la personne a envie d'améliorer, mmh. pas ce que
vous
moi.
Vous tenez compte d'une demande qui peut vous paraître même voilà. décalée ou pas judicieuse, mais comme
Tout
c'est la
fait.
Demande du patient, vous y répondez.
Tout à fait, c'est ça.
Il y a un petit côté chirurgie, pas esthétique, mais de la voix personnalisée quand même.
Donc oui, mais parfois je les laisse imaginer qu'ils vont pouvoir changer du tout au tout leur voix et je les laisse cheminer pour qu'ils se rendent compte que finalement ils avaient peut-être au départ une mauvaise interprétation de leur voix ou de leur intériorité, puisque c'est lié. Il y a très peu de gens qui me disent aimer leur voix au départ, et quand ils viennent souvent ils me disent j'aime pas ma voix, je veux changer des choses dans ma voix parce que je ne suis pas crédible avec cette voix là, elle me dérange et je voudrais changer de voix. Alors moi j'entends ça et je les laisse avancer dans ce qu'ils peuvent ressentir.
Et est-ce que ça vous arrive parfois de dire à certaines personnes que vous n'allez pas réussir à les aider à surmonter leurs difficultés au niveau de leur voix? Est-ce que parfois vous vous dites...
Alors, s'il y a une pathologie organique grave, effectivement, c'est sûr que je vais tout de suite leur dire que sans bilan laryngé, avec un diagnostic précis, mais moi si j'entends qu'il y a quelque chose d'assez important vocalement, de toute façon sans bilan laryngé je n'interviendrai pas. Avec un diagnostic de pathologie des cordes vocales, il y a des pathologies sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Mmh. Donc c'est bien clair.
Il y a peut-être le temps qui peut faire les choses, parce que vous indiquez que dans le livre se termine avec un patient à qui vous n'aviez pas pu tout à fait répondre, et vous nous disiez avant que nous débutions l'émission que ces temps-ci, actuellement, vous êtes en train de davantage travailler sur la chose, parce que je suppose que donc il y a dû avoir un changement, la question d'Isa marche bien. Peut-être pouviez-vous dire à une époque, voilà, je ne peux rien faire pour l'instant, mais peut-être
oui.
Reconsulte-moi d'ici
Alors,
quelques temps.
Et... C'est vrai que depuis quelques temps, je suis amenée à recevoir en suivi thérapeutique des transsexuels. Et le patient que vous citez, à l'époque, c'était effectivement un patient transsexuel qui avait été opéré des cordes vocales. Et je me sentais très démunie à l'époque. mais ça date, hein, cet exemple-là.
C'est en moins là. Oui, c'est peut-être la dernière page de votre livre, hein, la page 222, oui. Livre publié en 2011. Forcément, c'est une expérience antérieure.
Donc, oui, quoi, c'était antérieur au livre. Ouais. Ouais, je me suis sentie très, très démunie pour aider cette personne. À l'époque, il avait été adressé par un phoniatre qui m'avait dit « Écoute, si tu te sens, tu le fais. Si tu te sens pas, tu le fais pas. » Mais il y avait quand même des données acoustiques qui me paraissaient très compliquées à améliorer. J'ai évolué depuis, puisque j'ai reçu depuis quelques temps un certain nombre de patients transsexuels pour leur suivi thérapeutique, et puis qui basculent sur plus tard une demande de rééducation vocale pour les patients garçons qui deviennent filles, puisque dans le cas inverse, c'est pas nécessaire.
Ah oui.
Je précise.
Intéressant.
Voilà, je pourrais développer un petit peu après.
Ah oui.
Alors, donc soit on a un patient qui trouve tout de suite sa voix de fausset, entre guillemets, transsexuelle, et il faut l'améliorer, le faire chanter, améliorer sa problématique de changement vocal. Pour le coup, il n'y a pas le choix, parce que c'est ce qui va faire qu'il va être accepté ou pas. C'est le dernier point sensible de la transformation qui reste un frein pour certains transsexuels. Et donc là, je suis amenée aujourd'hui à changer un petit peu mon fusil d'épaule et dire, moi, je pense qu'on peut les aider et qu'on peut améliorer des choses. Ce sera peut-être pas parfait, mais on peut les aider quand même.
Et est-ce qu'il y a un minimum de séances à faire quand on veut améliorer sa voix? Est-ce qu'on doit faire... est-ce qu'il faut en faire minimum 5, voire 10, ou peut-être moins, ou peut-être...
Alors la quantité de séances, eh bien, elle dépend de votre demande, elle dépend des troubles de voix diagnostiqués. Évidemment, s'il y a une pathologie vocale organique, il faudra plus de temps, c'est évident. Si c'est juste un problème de puissance et que tout va bien sur les cordes vocales, effectivement, il faudra moins de séances. Mais après, si le patient a des freins psychologiques, c'est... Même s'il n'y a pas de troubles sur les cordes vocales, ça peut durer un petit peu plus que prévu, parce qu'il faut que les deux coïncident.
Si c'est une question de débit liée à la respiration, je crois que la respiration est fondamentale. Ouais. Donc voilà, ça peut se corriger plus vite déjà.
Oui, on commence par ça d'ailleurs.
On reviendra à la respiration.
Auditeur, vous souhaitez en savoir davantage sur Agnès Auger et sur son livre « Vivre mieux avec sa voix ». Vous souhaitez par exemple savoir si votre voix est claire, voilée, éraillée, rauque, nasale, bitonale, désonorisée, chevrotante, caverneuse, mélodieuse, douce, chantante, gaie, juvénile, criarde, stridente. Bref, je pourrais continuer, je les ai comptés, je crois qu'il y a 34, il y a 34 adjectifs. Auditeur, si vous souhaitez en savoir davantage, eh bien... Patientez un instant, nous allons écouter une voix, comment la qualifier
Une voix assez chaleureuse, on va dire.
Une voix assez chaleureuse, qui va nous chanter, vous allez le reconnaître. C'est un homme qui chante La Baie, cet extrait. Moi j'aime bien ça, Gérald, les petites compilations des Incorruptibles, Objectif 2000. Waouh,
c'est mieux maintenant.
C'était mieux avant, ça fait faire avec une voix chevrotante. Très bien. Écoutons La Baie, il est 14h25 et nous sommes en train d'avoir une conversation passionnante avec Agnès Auger, vox thérapeute. Faudra peut-être expliquer aussi ce... Je crois que ce terme, racine grecque, racine latine, on évoquera tout ça. Restez à l'écoute avec notamment ce chanteur, mais qui est-ce, de qui s'agit-il, qui chante La Baie sur cette compilation des Incorruptibles ?